Allô, allô, ici Ciné Herri.
En 1958, le réalisateur français Henri Decoing met en scène La Chatte, un film librement inspiré d'une histoire réelle, vécue par Mathilde Carré, une femme surnommée La Chatte et qui se livra à des activités d'espionnage très troubles pendant la Seconde Guerre mondiale. En l'occurrence, sa conduite lui valut d'être condamnée à la libération et de purger plusieurs années de prison. Avant de se tourner vers le cinéma, Henri Decoing est tout d'abord champion de France de water-polo, puis candidat dans cette discipline aux Jeux Olympiques de 1912 et ensuite aviateur durant la Grande Guerre. Après le conflit, il devient journaliste sportif et écrit notamment pour l'Auto, Paris Soir et l'Intransigeant. En 1926, il publie un roman de facture très originale, 15 rounds, qui le fit favorablement remarquer. Puis il se tourne vers le théâtre comme auteur dramatique et enchaîne dans le même temps l'écriture de scénarios. Mais en 1929, il devient assistant réalisateur et signe dès 1933 son premier film, Toboggan. Suivent d'innombrables œuvres, toujours d'excellente facture, parmi lesquelles les deux adaptations de Simenon, en 1942 Les Inconnus dans la maison, avec Rému dans le rôle principal, puis La vérité sur Bébé Donge, en 1952, avec Jean Gabin et Daniel Darieux, une comédienne qu'il dirigera à de nombreuses reprises et épousera. Ils tournent ensuite, en 1955, Razzia sur la Schnouf, un film policier avec de nouveau Jean Gabin pour vedette principale, une réalisation qui connaît aujourd'hui encore un grand succès. Très éclectique et novateur pour son époque, Decoing s'essaie avec bonheur à tous les genres cinématographiques, comme en témoigne La Chatte, une œuvre grave, mélancolique et désenchantée qui traite des activités de la résistance française pendant l'occupation. Revenons précisément à cette production, adaptée du roman éponyme de Jacques Rémy, qui signa également les dialogues. En noir et blanc, cette réalisation apparaît d'une grande beauté visuelle. Quant à la musique écrite par Victor Cosma, elle ajoute encore à son caractère étrange et mystérieux. Magistralement interprétée par Françoise Arnoux, Cora perd son mari, un résistant, qui meurt au cours d'une opération menée par la police allemande. Elle décide alors de rejoindre son réseau et de remplir les missions qui étaient destinées jusque-là à son époux. Elle rencontre le chef du groupe, le capitaine Debrun, interprété par Bernard Blier, qui, après bien des hésitations, marquées par une profonde méfiance, finit par l'intégrer. Mais dès les premières minutes de leur rencontre, il donne le ton et délivre le message désabusé que porte la totalité du film. Qui peut se vanter de connaître quelqu'un? On se croit discret et un jour on bavarde, ajoutant « Ici, on n'a pas confiance. Jamais. Et on se tait. » Une fois cooptée, Cora se voit attribuer une nouvelle identité et doit rompre avec son entourage, tout en s'engageant à ne pas nouer de nouvelles relations avec qui que ce soit. Or, comme son mari devait dérober les plans d'une fusée allemande dans une usine, elle prend aussitôt sa place au sein de l'équipe et se retrouve chargée de cette opération. Malgré les contrôles allemands qui empêchent le résistant Henri d'intervenir, elle le remplace au pied levé en réussissant brillamment à dérober les documents avec l'aide de Pierre, interprété par Roger Hanin, qui a su faire diversion et lui permettre de s'échapper. Peu après, elle rencontre Bernhard, qui se présente à elle comme étant un journaliste suisse et un pacifiste. Tandis qu'elle lui dissimule sa véritable identité et son combat, il fait de même. Officier allemand, il reçoit l'ordre de ses supérieurs d'infiltrer le réseau en se rapprochant de cette femme mystérieuse et suspecte. Pour ce faire, il devient donc Bernard Moser, citoyen suisse né à Zurich. Désormais, il incarne ce personnage fictif auprès de Cora. Pour les besoins de la cause nazie, il doit rendre crédible et donner vie auprès d'elle à un passé inventé de toutes pièces. En fait, le véritable Bernard Moser existe bel et bien, mais il est correspondant à Paris. Il a été arrêté par la police allemande, puis jeté en prison, pour que son identité puisse être empruntée par cet officier allemand, devenu le contact de la chatte. Cora s'éprend de cet homme dont elle ignore la véritable identité. Elle parvient même, en toute bonne foi, à le faire accepter et intégrer dans son réseau. Pour sa part, l'officier allemand tombe lui aussi amoureux. « Tu peux choisir d'être une femme et pas un héros si tu voulais m'écouter », lui conseille-t-il, espérant qu'elle s'échappera avec lui de l'engrenage qui va finalement les broyer. Condamnée à obéir aux ordres de sa hiérarchie, il est obligé de manipuler Cora et de participer à un guet-apens pour démanteler le réseau. Il a beau s'exclamer « Je ne suis pas un mouchard, je suis un soldat !» Rien n'y fait, le destin est en marche, semble nous dire Henri de Coin. Trompée, désabusée, arrêtée et interrogée, Cora se refuse cependant à livrer ses camarades. Les Allemands se vengent alors en la laissant repartir, libre, afin qu'elle soit exécutée par les siens, persuadée qu'elle les a donnés. Alors qu'elle marche dans une rue déserte et longe les murs de la prison d'où elle vient d'être libérée, la chatte est ainsi abattue peu après sa libération. Henri de Coin montre à l'écran une femme qui est tout à la fois une veuve, une résistante et une femme amoureuse. Elle incarne également la figure du traître, mais un traître bien malgré elle puisqu'elle a été manipulée et a trahi à son insu. Enfin, elle représente aussi un enjeu que se disputent Bernhard et son supérieur hiérarchique. Ce dernier, devant le refus de coopérer de son subordonné, lui met le marché en main. « Tu nous livres les autres, tous les autres, et nous la laissons libre. » Dans la chatte, Cora perd son mari. Elle perd son nom. Elle perd son passé, elle perd son amour, elle perd l'estime de ses camarades, elle perd l'estime d'elle-même, elle perd toute illusion sur les autres. Enfin, elle perd tout espoir avant de perdre, finalement, la vie. Elle n'est plus une épouse, ni une amante, ni a fortiori une résistante, mais elle n'est pas pour autant une traître. En fait, elle n'est plus rien. Et elle le sait. Émotionnellement morte, elle se laisse donc abattre. Tout se passe comme si elle n'avait jamais existé, semble nous dire de Coin. Personne ne l'a vraiment connue, et personne ne pourra plus jamais la reconnaître pour ce qu'elle était véritablement. Elle finira par disparaître dans l'anonymat et le néant des causes perdues. Comme ces combattants qui ont dû parfois passer malheureusement pour des traîtres en essayant de toutefois mener honnêtement leur mission à bien. À cet égard, comment ne pas songer au résistant Jean-François Jardy que Jean-Pierre Cassel campera quelques années plus tard dans le film de Jean-Pierre Melville, L'armée des ombres. Il fait un écho au personnage de Cora. Comme elle, il meurt incompris et disparaît dans l'anonymat le plus complet. Chez tous deux, on retrouve une même mort tragique, une mort d'autant plus tragique qu'elle intervient dans une confusion des identités qui devait a priori les protéger et les a en fait achevées.